C'est intéressant quand on parle, moi quand j'étudie un thème, je vous dis un peu comment je m'y prends. Quand j'étudie un thème, j'aime bien partir de l'étymologie des mots. Bon, c'est une base de réflexion, c'est pas la seule, mais c'est une base de réflexion. Et c'est intéressant de voir que le mot fidélité, par exemple, a la même origine que le mot foi. Fidélité, foi, c'est quelque chose qui a à voir, et c'est intéressant de voir que la foi, c'est en même temps un assemblage de clarté et de mystère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la foi, si on a foi en Jésus, nous qui sommes ici, nous avons foi en Jésus, donc nous avons des raisons d'avoir foi, il y a quand même une lumière qui nous vient dans notre intelligence, qui nous pousse à avoir foi en Jésus, en sa parole, en ses sacrements, en son Église, etc. Il y a quand même une lumière, c'est pas simplement le fruit d'une tradition, parce qu'on est dans une famille catholique, donc voilà, on est catholique, etc. C'est que, quand on grandit dans la foi, et comme vous, vous êtes aussi actrice de votre propre foi, c'est que vous y voyez une lumière, c'est qu'il y a une certitude dans votre foi. Et puis, en même temps, il y a une part de mystère, une part d'ombre, j'aime pas plutôt de mystère, parce que ombre, ça voudrait dire que ce soit un peu mauvais, etc. Mais non, une part de mystère, il y a quelque chose qui nous est caché. Dans la foi, c'est un mélange de caché, de révélé. Il y a des choses cachées, il y a des choses révélées. Il y a des choses qui nous sont claires, il y a des choses dans lesquelles on chemine encore et pour lesquelles on a peut-être du mal à croire. Et je parle de ça parce que c'est au fond un clair-obscur, la foi. Et je trouve que c'est vrai que dans la foi, par rapport à notre voie, que un bien, par exemple, le fait d'être avec Dieu dans l'éternité, mais on n'a pas encore la claire vision, on n'a pas le face-à-face avec Dieu. Donc, c'est ce qu'on appelle en théologie, la foi, c'est un régime d'indigence. Est-ce que c'est l'indigence? Être indigent, hein, les indigents, c'est les personnes pauvres, c'est ça, c'est les indigents. Donc, c'est un régime d'indigence, c'est faute de mieux, faute de quoi? Faute d'avoir la vision, le face-à-face. Pourquoi je parle de la foi? Pour attaquer la question de la fidélité. Parce que dans la fidélité, dans tous ses états, il ne s'agit pas simplement de la fidélité matrimoniale. Il s'agit de la fidélité au Seigneur, de la fidélité à soi-même, à ce que nous portons, hein, la fidélité à ses engagements. Pour celles d'entre vous, ben voilà, qui se sont engagées dans le mariage, eh bien, c'est un engagement, il y a fidélité. Mais vous voyez, la fidélité, ça va bien au-delà de ce que peut être la fidélité matrimoniale. Et donc, mais dans la fidélité, c'est un peu comme ça, parce que c'est un peu un clair-obscur, d'une certaine manière. C'est un clair-obscur, on reste avec quelqu'un, par exemple, on reste dans un engagement, on reste dans la foi, mais ce n'est pas pour autant qu'on a la claire vision de pourquoi on y reste. Alors, je me souviens comme ça de cette jeune fille qui me disait, mais d'éducation catholique et tout, et qui me disait, mais parfois j'ai envie de tout envoyer balader, de tout envoyer par-dessus bord. Parce que je trouve ça trop exigeant, je trouve ça trop contraignant, je trouve ça, parce que ça demande évidemment un travail sur soi-même, une conversion, ça demande, etc. Et je vis les païens, au fond, est-ce qu'ils sont pas plus heureux que nous, quoi? Et puis, ceux qui n'ont ni Dieu ni maître, bon, et qui, somme toute, écoutent leur conscience, ben voilà. Et donc, on voit bien que, il y a un combat dans la fidélité comme il y a un combat dans la foi. Parce qu'on n'a pas la claire vision de tout. On n'a pas la claire vision de tout. Donc, c'est intéressant que vous puissiez, qu'on puisse nommer ça aussi dans notre partie de combat spirituel. Mais il y a des choses sur lesquelles vous vous appuyez qui sont certaines pour vous. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Si vous étiez dans le brouillard le plus absolu, et dans le doute, voire le rejet, ben vous ne seriez pas là aujourd'hui. C'est qu'il y a quand même, dans votre vie, dans votre existence, des choses qui sont assez claires. Sinon, vous serez, de même dans vos engagements matrimoniaux, engagements paroissiaux, engagements professionnels, etc., etc., amicaux, bon, il y a quand même des choses qui sont claires. Et je dis ça parce que quand, comment dire, quand viennent les moments difficiles, dans ces différentes formes d'engagement, ou face à Dieu lui-même, il faut faire mémoire des certitudes intérieures qui nous habitent et des raisons pour lesquelles on a choisi tel ou tel engagement et pourquoi on va y être fidèle. Je me souviens comme ça de cette femme qui me disait, ben, il y a 10 ans, 15 ans, elle me dit, je me suis mariée avec mon mari et pour telle et telle raison, c'est pour telle et telle raison que je suis encore avec lui aujourd'hui. Donc, c'est quelque part, il y a un travail de l'intelligence dans la fidélité. Ça ne se fait pas simplement à coup d'affectif, à coup de... Il y a un travail de l'intelligence. Donc, je pense que c'est important pour nous que nous puissions faire mémoire aussi dans les différents engagements spirituels, sociaux, matrimoniaux, amicaux, familiaux, de faire mémoire de la certitude qu'on a eue à un moment donné que, voilà, il y a eu des raisons. Et dans notre foi, c'est pareil, on a des raisons de croire. On ne croit pas en des raisons, mais on a des raisons de croire. Hein, ben, j'aimerais bien vous proposer pour l'année prochaine, parce que je suis en train de jamouliner pour l'année prochaine, qu'on parle du credo, par exemple, qu'on se fasse le credo. Moi, je ne sais pas si on se le fera, mais pendant l'année, on médite sur le credo. Il y a des raisons de croire, c'est capital, ça. Hein, la foi est dans l'intelligence. Mais la fidélité aussi est dans l'intelligence. Elle n'est pas dans le ressenti. Parfois, on ne ressent rien. La relation avec Dieu, etc. Vous vous rappelez, Mère Teresa, tout le monde avait été stupéfait, etc. Quand après une sainte pareille, on dit qu'elle doit avoir des extases mystiques, elle doit être transportée au septième ciel dans sa prière, etc. Et elle nous dit, c'était le gros combat toute ma vie, j'ai pas ressenti grand-chose. Mais, sur ta parole, Seigneur, je lancerai les filets, parce que j'ai confiance en toi, je veux être fidèle, et j'y vais. Je dis ça parce que bien souvent, on met trop l'accent sur cette dimension d'affectivité, qui est importante, je ne veux pas la nier, qui est importante, mais on met trop l'accent sur cette dimension d'affectivité, de sensibilité, d'émotion. Alors évidemment, l'émotion, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Et quand Jésus nous a commandé d'aimer, d'abord il nous l'a commandé d'aimer, c'est assez intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aimer n'est pas spontané. Sinon, ça se saurait. Hein? Donc, et c'est pour ça qu'il nous l'a commandé. Je vous donne un commandement nouveau. Mais il ne nous a pas commandé une émotion. Ça n'aurait aucun sens. Il ne nous a pas commandé une émotion. Il nous a pas commandé. Alors, bien sûr, parfois, l'amour envers les enfants, les petits-enfants, envers la personne en fragilité, envers la belle-mère, c'est parfois plus compliqué. Mais bon, il y en a qui aiment beaucoup, beaucoup leur belle-mère, passionnément. Donc, ça existe aussi. Parce que quand on est femme, on risque aussi de devenir la belle-mère de quelqu'un. Donc, du coup, tôt ou tard. Donc, c'est toujours bien de les épargner, les pauvres. Donc, du coup, c'est intéressant de se dire que, mais il y a une forme de décision. Hein, l'amour est dans la... Et de fait, dans l'échange des consentements, etc., et puis même dans le mariage civil, c'est pareil. Hein, on ne demande pas aux fiancés qui se présentent, soit devant monsieur le maire, soit devant monsieur le curé, on ne lui demande pas s'ils s'aiment. On ne leur demande pas ça. On suppose, mais à la limite, c'est même pas nécessaire pour la validité du sacrement, même, et même la validité du mariage civil. On leur demande, voulez-vous prendre pour épouse, pour époux? Oui, je le veux. Ou pas. Mais bon, en général, c'est mieux de répondre oui, parce que sinon, c'est un peu compliqué après. Mais en tout cas, c'est ça. Oui, je le veux. Et donc, dans la fidélité, il y a ça, il y a cette dimension de... j'enracine aussi mes différents engagements. De même, la fidélité à ce que je porte. J'ai mis des mots en moi sur ce que je porte en moi, des charismes. Et du coup, le Seigneur m'appelle à être fidèle à ces charismes. Ça peut être charisme de compassion, charisme d'organisation, charisme d'écoute, de prière. Il y a des tas de charismes. Chacun, on voit bien qu'on a. Et c'est pour ça qu'on forme un seul corps, parce qu'on a besoin des charismes des uns des autres. Et du coup, la fidélité, c'est la fidélité au talent aussi, au charisme que j'ai reçu. Hein, c'est aussi cette fidélité-là. Donc, mais. Ça reste, hein, je l'ai dit, marqué avec clair-obscur, ça reste entre deux eaux, parce que, comme la foi, hein, et fidélité-foi, on a vu, ben, comme la foi, eh bien, c'est un régime d'indigence. Il y a des moments où on marchera peut-être à coup de volonté, oui, c'est possible, mais c'est pas pour ça que c'est mauvais. Peut-être ces moments-là, eh bien voilà, ensuite on les traversera, et on sera peut-être un peu plus porté intérieurement, on sera un petit peu plus porté... Voilà, mais je pense que de ce côté-là, c'est quelque chose qui est important de travailler. Derrière ça, derrière la fidélité, ça veut dire aussi qu'on voit un bien, un bonheur, hein, que l'on suppose ou que l'on expérimente. C'est aussi intéressant de se dire ça, de se poser la question, quel est le bonheur, quel est le bien, qu'on a marqué fidélité, source de bonheur. Quel est le bonheur, quel est le bien qui me fait avancer, qui me fait rester fidèle, hein, qui me fait, voilà, c'est important de nommer ça. Et c'est entre autres parce que le fait de nommer ça, ça va donner à notre intelligence des raisons de rester là où on est. Ou pas, parce que il y a, je pense, des engagements associatifs, etc. C'est pas indissoluble, hein, donc on peut parfois être complètement, voilà, on peut changer, etc. Mais en tout cas, c'est intéressant de faire ce travail de l'intelligence. Hein, hein. Et puis ce bien-là, au fond, il nous dépasse. Ce bien-là, il nous dépasse. Ça veut dire qu'il rejoint, on porte d'autres personnes dans notre fidélité. Hein, on porte d'autres personnes dans notre fidélité. Ça, c'est important de se le dire. J'entends surtout dans les grands engagements, mais même dans les petits engagements. Vous êtes engagé, je ne sais pas quoi, à faire la feuille de paroisse, vous êtes engagé à l'animation, à la préparation. Il y a d'autres personnes que l'on porte dans notre fidélité. Dans nos fidélités quotidiennes, j'entends, hein. Bien sûr, dans les grandes fidélités, des grandes décisions. Mais il n'y a pas que des grandes décisions dans la vie. Il y en a une ou deux, voilà, et puis point barre, qui résonnent et qui retentissent dans toute notre existence. Bien sûr, comme le choix de vie, par exemple. Bon. Mais c'est important de se dire que même dans les autres engagements, on porte les autres. Et on voit bien à quel point aussi les manques de fidélité, voire de responsabilité, c'est ça à voir aussi, ou de conscience professionnelle. Même dans la vie professionnelle, il y a une fidélité. La fidélité à la parole donnée au client, la fidélité au travail réalisé, c'est une forme de fidélité. Vous voyez, c'est très vaste de ce point de vue-là. Et du coup, je trouve que, je crois qu'il y a vraiment de prendre conscience, quand on est amené à discerner, par exemple, quand on est amené à changer d'engagement, on a comme ça des moments de bascule dans notre vie, etc., qu'il y a d'autres qui dépendent de nous, de nos fidélités. Hein, nous sommes unis les uns aux autres, à tel point que le grand apôtre saint Paul dira, hein, nous sommes membres les uns des autres. Hein, et je ne peux pas dire « je » sans dire « tu », je ne peux pas dire « tu » sans dire « nous ». Et ça, c'est très fort, en tout cas dans notre foi catholique, c'est très fort. Plus que chez nos frères protestants qui n'ont pas tellement cette... ont moins, en tout cas, cette dimension. C'est plus une relation personnelle avec Dieu qui est aussi intéressante. Mais il y a moins cette notion de groupir. Vous voyez, nous, on est très groupir. On est très... On se rassemble, on fait des choses. On aime bien se rassembler, en tout cas. On aime bien... Parfois, ça tombe dans la réunionnite, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais on aime bien pour les célébrations, pour les... Voilà. On aime bien faire... Quelque part, dans la culture catholique, il y a vraiment cette dimension du corps. De faire corps. Alors, ça ne veut pas dire qu'on s'entend bien. Hein, ça, on ne faut pas tout demander en même temps. Et bon, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. C'est-à-dire qu'il y a aussi des difficultés. Mais justement parce que il y a cette dimension de voilà, ce que je fais retentit sur les autres. Et donc la fidélité quotidienne a aussi des conséquences. Nos petites fidélités ont aussi des conséquences sur les autres. Ça nous fait c'est un antidote à l'égoïsme, d'une certaine manière. C'est un antidote à l'égoïsme. L'égoïsme, non, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, etc. Après moi, le déluge. Ben oui, c'est possible, mais bon, si tu es là où tu es actuellement, c'est peut-être d'autres ont pris soin de toi, d'autres se sont engagés, d'autres ont donné leur vie, de leur temps, de leur énergie pour que tu adviennes l'homme ou la femme que tu es aujourd'hui. Donc après moi, le déluge, je veux bien, mais ça, c'est l'égoïsme qui mène à rien, quoi. Et ça, je pense que... Je parle aussi pour vous qui êtes en contact avec des jeunes, avec évidemment vos enfants, mais aussi vos petits-enfants. Comme on est dans une société pas mal du zapping, c'est-à-dire qu'on change, etc., ben à plein de niveaux, hein, pas seulement affectif, mais aussi affectif, ils regardent beaucoup nos fidélités d'adultes. Et nos fidélités d'adultes... comme aussi nos infidélités d'adultes ou nos manques de responsabilité d'adultes, retentit, forment leur cœur de jeune. Alors, leur cœur d'enfant, mais aussi leur cœur de jeune, des jeunes adultes, vous avez certains des jeunes adultes comme enfants déjà, ou vous comme grands-parents, etc. Bon, c'est important de prendre conscience de ça, parce que parfois, certains en tout cas, c'est plutôt compliqué dans leur vie de famille, c'est plus compliqué ou avec leurs propres parents, ou avec l'école, ou avec... ils ont du mal à se retrouver, ils ont du mal à trouver... Le fait d'avoir un point fixe, quelque part, quelque chose de stable, les apaise beaucoup. Je me souviens comme ça d'un jeune qui me disait, tiens, quand je pense à telle personne, eh bien, je sens de la paix en moi. Rien que de fait de... Parce que je sens que quelque part, il y a un roc, là. C'est une personne, je sais qu'elle sera avec moi. Elle sera. Et du coup, il y a vraiment une. Donc, c'est intéressant de se dire que. On porte d'autres dans notre fidélité. Mais aussi, je l'ai un petit peu évoqué auparavant. On est dans ce qu'on appelle le déjà et le pas encore, hein, dans la fidélité, comme dans la foi. Hein, le déjà et le pas encore, je ne sais pas si vous connaissez cette catégorie, ou peut-être cette mode de raisonner en théologie, hein, c'est-à-dire qu'on est déjà ressuscité avec le Christ, mais pas encore, on n'est pas encore avec nos cœurs glorieux, sinon, peut-être le cœur glorieux, on peut prendre du thé, j'en sais rien, il faudrait voir, mais bon, on n'est pas encore dans le face-à-face, on n'est pas encore, voilà, on est déjà sauvé, mais on n'est pas encore pleinement dans la résurrection. Vous voyez, des choses, le déjà et le pas encore. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que justement, dans la fidélité, il y a cette forme de tension. Oui, déjà, on voit qu'il y a un bien, mais... Et c'est pour ça que parfois il y a du combat spirituel dans nos différentes fidélités à Dieu, à nous-mêmes, aux autres, etc., à toutes celles que j'ai évoquées, parce que justement il y a cette tension intérieure qui fait que on voit déjà qu'il y a un bien, mais c'est pas encore la plénitude. Et le chrétien vit cette tension. Le chrétien, peut-être plus que d'autres, je suis dans le monde, mais je suis pas du monde, nous dit Jésus. Mais rien que de nous dire ça, ben voilà, c'est clairement une tension. C'est une forme d'écartèlement. Hein. On aimerait peut-être être complètement au Seigneur, mais on est encore dans ce monde. Et puis c'est bien comme ça, parce que c'est ce monde-là aussi qu'il faut sanctifier et auquel il faut annoncer la bonne nouvelle. Donc le déjà et pas encore, je trouve que ça peut aussi être intéressant pour pas se décourager dans nos fidélités, parce que y a le plus grand risque justement c'est le découragement. le découragement, le aquabonisme. Aquabonisme, ça veut dire quoi? Aquabon. Avec isme, avec après. Donc, aquabon, enfin, aquabon, ben, laisse tomber, aquabon, etc. Ben non. Pas aquabon. Ben, tu vois bien que ça mène à rien, tu vois bien que... Alors, parfois, il y a un vrai discernement à faire dans nos engagements, hein. Hein, je pense à nos engagements qui sont sur le relativement court terme, mais que ce soit aussi le fruit d'une décision, si on se désengage, que ce soit le fruit d'un discernement. Bon, premièrement, ça, c'était l'introduction. Ensuite, la fidélité... Deuxième point, la fidélité, il y a confiance. Dans le mot fidélité, il y a le mot confiance. Cela demande un abandon, ne pas tout maîtriser. Et de fait, parce que c'est un clair-obscur, la fidélité demandera un lâcher prise. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas prise. Il y a des choses qui m'échappent. Et à vouloir tout contrôler, tout maîtriser, que tout dépende de moi, que tout... Ben, quelque part, voilà, je ne rentre plus dans cette dimension de confiance. Et ça met en jeu ma fidélité, parce que je me dis, comme tout ne va pas comme moi je veux, eh bien j'arrête. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe que nous choisissons de faire confiance, et dans la foi, c'est pareil. Hein. De même, le mot confiance, c'est la même étymologie que foi et fidélité. Hein. Fides fidei en latin. Ben, je choisis de faire confiance. Je ne vois pas aujourd'hui les fruits de cette fidélité au quotidien. Je ne la vois pas. Mais je veux quand même essayer d'avoir une attitude de une chaise. Il faut essayer d'avoir une attitude de confiance, quelque part, une attitude d'une certaine, un certain abandon. Parce que sinon, on se décourage et sinon, on arrête. Un des gros obstacles à nos manques de fidélité, c'est justement ça. C'est parce qu'on veut tout maîtriser. Et comme on n'arrive pas à tout maîtriser, déjà, nous soi-même, on n'a pas forcément la maîtrise de nous-mêmes, d'abord, premièrement, et puis à fortiori des autres, et c'est tant mieux, et à fortiori des événements qui se passent dans la vie, des tas de choses, mais du coup, on arrête. Et de ce fait-là, le perfectionnisme est une véritable plaie pour la fidélité. Parce que le perfectionnisme nous empêche d'avancer, nous empêche d'avancer dans la confiance, nous empêche justement, parce qu'il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit bien, il faut que tout soit nickel. Hein? Et comme c'est jamais assez bien, parce que forcément, comme c'est des réalités humaines, je vous ai déjà raconté l'histoire de ces fiancés qui voulaient se déclarer la flamme, leur flamme, je vous l'ai déjà raconté, non? Lui avait prévu de déclarer sa femme à sa dulcinée, etc. Et il organise un voyage au Vietnam. La baie d'Along, c'est au Vietnam, c'est ça? C'est là-bas. Il dit, voilà, et là, je déclarerai ma flamme, etc. Devant la baie d'Along, etc. Tout un truc romantique au possible. Et puis, pourquoi? Il faisait pas beau temps. Ah, il dit, non, c'est pas assez bien. C'est pas assez bien. Il faut un truc de mieux. Bon, alors elle se doutait que bon, il y avait quand même Anguille sur Roche, etc., que ce voyage-là, c'était bien pour ça. Bon, elle ne voit rien venir. Et puis, arrivée à la gare du Nord, je crois qu'il était passé par la gare du Nord, il dit, t'as pas oublié quelque chose? Il me dit, oui, j'ai oublié quelque chose. Mais j'attendais, moi, je veux te demander ta main, etc., mais je voulais que ce soit parfait, que ce soit un cadre parfait, etc. Et du coup, au milieu des miasmes morbides de la gare du Nord, à côté d'un SDF qui était en train d'uriner dans un coin, il a fait sa demande en mariage. Voilà à quoi mène le perfectionnisme. voyez, parce que ça empêche d'agir. Hein, donc, du coup, j'ai bien aimé cette histoire, alors qu'il était devant la baie d'Along, etc. Elle est... bon. Voilà, donc, c'est juste la confiance et la fidélité, forcément, si ça demande un discernement, c'est là où c'est pas facile d'allier les deux, si ça demande un discernement, ça demande un lâcher-prise et une confiance. Parce qu'on ne voit pas précisément les fruits tout de suite. Alors, en même temps, il ne faut pas le zapping, en même temps, il ne faut pas être le dernier des Mohicans. Vous savez ce que c'est que le dernier des Mohicans? Vous avez peut-être lu le roman, etc. Bon. Celui qui tient Mordicus, voilà, jusqu'à... Alors qu'il faudrait lâcher, parce que, voilà, juste, les temps ont changé, le changement existe aussi dans notre vie. Attention à cette fidélité sclérosante. Hein. Mais, donc, du coup, je trouve que c'est... De faire mémoire que de l'importance de la confiance, du lâcher prise dans la fidélité, et que les choses se donnent dans le temps aussi. Que les choses se donnent dans le temps. Et ça veut dire aussi, quelque part, quel est notre rapport au temps. Peut-être on en parlera plus cet après-midi. Quel est notre rapport au temps? Et nos impatiences sont bien souvent celles qui nous jouent le plus de tours par rapport à nos fidélités, justement, quotidiennes. Parce qu'on ne voit pas tout de suite le fruit. Et quel rapport au temps? Comment est-ce que je vois le temps? Est-ce que je vois le temps comme une menace? Ou est-ce que je vois le temps comme un allié? Qui dit fidélité dit forcément temps, dit durée, dit voilà, quelque chose qui s'étend, c'est pas une fidélité de 5 minutes. Donc, c'est intéressant de se projeter soi-même. Est-ce que je vois, est-ce que je laisse, comme on dit dans l'expression un peu populaire, laisser du temps au temps? Est-ce qu'au fond, dans l'éducation, par exemple, l'éducation, c'est une fidélité. Vous voyez bien qu'il suffit pas de tirer, sur les enfants pour qu'ils grandissent. Je veux dire, il suffit pas de tirer sur une plante pour qu'elle grandisse non plus. Je veux dire, ça, il y a des étapes qui sont difficiles. Il y a l'adolescence, et ensuite il y a l'état de jeune adulte, etc. À chaque étape, il y a un temps qui est demandé. Et c'est là aussi, ça demande une humilité pour nous. Parce que c'est le tout de suite, on est dans la culture de comme ça, il faut que j'appuie sur le, je clique. Et c'est vrai que, quelque part, les technologies modernes ont changé notre rapport au temps. Les technologies modernes ont condensé le temps. Maintenant, si vous n'avez pas répondu à un mail en 2 jours, c'est qu'il y a un problème. Je dis 2 jours, encore, c'est pas dans la vie professionnelle, c'est même dans la vie amicale. Donc, c'est qu'il faut, voilà, on sent une condensation du temps. Et du coup, cette condensation du temps fait que le rapport aux autres, mine de rien, change. On est dans une exigence, on est dans une exigence de réactivité, on est dans une... qui est pas mauvaise, forcément, mais il faut juste en prendre conscience, quoi. Ça a quand même modifié nos rapports humains. Ça nous rend plus impatients. Parce que la technologie nous permet d'aller très vite. Et encore, quand on voit que notre Internet galère, etc., on s'impatiente, ça va pas assez vite. Il faut maintenant, après la 3G, il y a la 4G, il y aura la 20G, je sais pas quoi. Bon, bah, après, bon, on pourra plus suivre. Donc, mais quelle est aussi, moi, ma question, quelle est aussi la part de notre vie contemplative? C'était la part où on laisse quelque part d'une gratuité dans le temps. Et pourquoi ça a à voir avec la fidélité? Parce que précisément, notre vie contemplative, le fait d'avoir une certaine gratuité, nous permettra aussi d'envisager le lien avec les personnes, envisager le lien avec les événements, de manière différente, avec un recul, avec une et non pas aller de droite, de gauche, ça va pas ici, je vais à droite, je vais à gauche, etc. Vous voyez, quelqu'un qui est... parce qu'il veut un résultat immédiat. Et je trouve que ces journées de halte spirituelle sont là pour ça, justement, pour vous aider à prendre ce recul, à avoir un lieu de vie contemplative. Au fond, pour vous aider dans la fidélité. dans vos fidélités. Parce qu'on se remet face justement à... On débranche, hein, il y a comme ça une chanson de France Gall qui s'appelle Débranche, hein, on débranche, et puis ensuite on... voilà, vous avez, vous mettez, on ne peut pas fermer, mettez-vous peut-être par là-bas, on peut le bouger, hein, on peut, hein, on n'est pas, c'est pas, changez-vous si vous avez aussi le soleil, hein, n'hésitez pas à bouger. Hein. Mais on, vous voyez, on, le fait d'avoir un lieu, un temps comme celui-ci, et nous, la communauté, on veut vraiment offrir ce service, au fond, de, pour les, le peuple chrétien, bien, de se dire, ça fait partie de ma vie contemplative. C'est des haltes spirituelles qui construisent ma vie contemplative et du coup qui mettent dans les fidélités. Bien souvent, il faut un peu se prendre de la distance, aller un peu plus loin pour revoir ce qu'il y a plus près et le revoir différemment. Il faut parfois aller plus loin pour prendre conscience de ce qui est à côté de nous. Voilà. Mais, alors, il y a une autre question. Qui dit temps, dit aussi, et donc fidélité, tout ça c'est lié, dit aussi une forme de lassitude, voire d'ennui. Alors ça c'est une vraie question. On peut parfois sentir ce qu'on appelle l'acédie. Acédie, A-C-E-D-I-E, acédie. C'est-à-dire la privation du goût. Et ce qui est aussi un ennemi pour notre vie spirituelle, et notre, ça peut être du goût de Dieu, du goût de l'autre qui est à mes côtés, hein, dans la vie matrimoniale, du goût de mes enfants, du goût de... la privation du goût, l'acédie. C'est bon et donc, du coup... et donc, une forme d'ennui, une forme de lassitude. Et c'est vrai que... Et ça, quels que soient nos états de vie, tôt ou tard, on croise dans notre route l'acédie. Parce que ben, c'est vrai que nos vies ben, sont souvent répétitives. Il y a des choses, il y a une routine. Heureusement qu'il y a une routine quelque part. S'il fallait réinventer chaque journée, etc., ce serait épuisant. Donc il y a quand même, on commence, on râle, bon, on fait sa toilette, on fait, ouais, il y a des rites, il y a des rituels. On emmène les enfants à l'école, on met ça pour ceux qui doivent y aller, etc. Bon, il y a des tas de... Mais du coup, parfois, on perd de vue le sens de tout ça. Il y a une forme de lassitude, une forme et je crois que de ce côté-là, il faut être attentif que justement, on ne se laisse pas décourager. Quel est le remède à la cédie? Parce que la cédie peut venir d'une certaine paresse spirituelle aussi, peut venir d'une certaine... Voilà, je me laisse un peu couler, quoi. Le remède, c'est de revoir, justement, c'est de se repositionner face à nos engagements et à la beauté de nos engagements et à la beauté de nos fidélités. C'est en voyant le bien, le beau et le vrai que l'on peut s'encourager et que l'on peut se soutenir. C'est en voyant à quel point l'autre avec qui j'ai partagé ma vie est aimable. Et c'est là l'attitude contemplative. Parce qu'on a vite fait, au bout de X années de vie commune, on a vite fait de transformer l'autre en une liste de défauts. Ce qui n'est pas très difficile, je veux dire, il ne faut même pas être intelligent, il faut être observateur. C'est-à-dire que il suffit de voir combien... Ben voilà, parce qu'on est fait de creux de bosse et nous on a voilà, c'est assez facile de transformer l'autre en une liste de défauts, parce que soi-même aussi on est complètement imparfait. Mais comment justement grandir dans l'amour? Ben, si ce n'est en voyant le bon, le bien et le vrai dans l'autre. Au fond, c'est rentrer dans l'attitude contemplative. C'est contemplatif, parce que parfois on voit comme un peu planant, etc. Non, contemplatif, c'est le chemin du regard. C'est la contemplation, c'est une manière de regarder. Et pour cela, il est important de s'extraire, comme vous le faites aujourd'hui, ou lors de retraites, quand vous avez pu en vivre, etc., ou peut-être dans vos journées, si vous avez celles qui ont la possibilité de le faire, de s'extraire du quotidien pour justement de revoir, de remettre l'autre, nos engagements, nos fidélités, dans ce qu'elles ont de beau, dans ce qui est beau, ce qui est vrai et bon. On est parfois infidèle par manque de vie contemplative, parce qu'on se laisse trop vite décourager. Parce que la lassitude gagne. Et dans toutes nos vies, il y a une part de lassitude, il y a une part de routine, il y a une part de... Voilà, dans toutes nos vies. Que ce soit vie de mère de famille, vie de religieux, de professionnel, etc. Forcément, il y a des... Voilà. Ce qui aide aussi à lutter contre la cédille, c'est la communauté. Qu'est-ce que j'entends par la communauté ? Alors, c'est la communauté des croyants, mais aussi la communauté que forme une famille, c'est la communauté que forme une paroisse ou une association. Comme c'est important de se soutenir les uns les autres, justement, en redisant le beau, le bien et le vrai de l'engagement que l'on a pris. Parce que ça rayonnera sur les autres. Et à vouloir, et ce qui au contraire nous fragilise dans nos fidélités, c'est l'enfermement. C'est une forme de solitude. Mais solitude choisie, c'est-à-dire qui confine à l'orgueil aussi, cet enfermement. Hein, ça, c'est même l'autre nom de l'orgueil, c'est l'enfermement. Hein, donc, cet enfermement qui fragilise ensuite. Ça, forcément, je suis seul, vulnérable, plus vulnérable aux attaques du démon, disons les choses clairement, et du coup, je n'ai pas la communauté, ma communauté naturelle ou surnaturelle, appelez-la comme vous voulez, qui est là et qui me soutient. Et je trouve ça beau dans une vie de couple, dans une vie en tout cas de communauté, même paroissiale, d'association, etc. Ben voilà, on n'est pas au taquet tous en même temps, parce que déjà ce serait très fatigant. Et puis ensuite, justement qu'il y en a un qui a besoin de souffler, etc. Ben l'autre prend le relais. C'est un peu ça. Et donc l'autre est un soutien aussi dans sa fidélité, dans la fidélité. Et ça, je crois, de ce côté-là, c'est quelque chose à tenir en compte. Une trop grande solitude fragilise nos fidélités. Autre point, mais on va l'aborder maintenant simplement, un petit peu, c'est que la fidélité, elle est dynamique. Ça veut dire quoi ? Bien souvent, on a l'idée que être fidèle, par exemple dans la vie matrimoniale, par exemple, ben voilà, c'est ne pas aller voir ailleurs. Bon, je vais dire, c'est vrai, c'est le minimum syndical, mais on peut très bien être infidèle sans aller voir ailleurs. Pourquoi ? Parce que la fidélité telle qu'on la voit dans la Bible, la fidélité de Dieu essentiellement, parce que c'est lui qui nous montre la fidélité, comment vivre, mais c'est une fidélité dynamique. Bien sûr, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, il est avec nous. Il reste avec nous. Mais en même temps, c'est un Dieu qui rentre dans une logique de don. Il se donne dans sa parole, et Dieu dit, et cela est, etc., la création. Il se donne dans les prophètes, hein, il s'est donné dans les rois d'Israël, il s'est donné dans, voilà, dans les différentes figures de la Bible, dans les patriarches, etc. Bon, évidemment, en Jésus, il s'est donné, cette parole ultime, le Christ, et il continue de se donner dans son Église, dans les sacrements. C'est une fidélité qui avance. Et donc, être fidèle, c'est pas simplement « je reste là, j'y suis, j'y reste ». S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Mais non, c'est pas simplement ça. On peut très bien manquer de fidélité tout en restant. C'est intéressant de voir saint Thomas d'Aquin, quand il parle des vœux religieux. Il dit « le religieux ». Qui, tout en restant dans sa communauté, tout en participant aux offices communautaires et aux exercices communautaires, etc., à se demander selon la règle, mais qui n'est pas dans une attitude de conversion, qui n'est pas dans une attitude de changement de lui-même, de réforme, parce que les vœux religieux visent à la réforme de soi-même, à la conversion des mœurs, à se changer. Ce religieux-là, qui dit « je ne changerai pas », celui-là, même s'il fait tout comme tout le monde, il a déjà rompu ses vœux. C'est ce que dit Jésus aussi d'une autre manière. Hein. Celui qui est dans son cœur, dans un autre contexte, dans son cœur se met en colère contre son frère, etc., je lui dis, celui-là, il est déjà homicide. Quelque part, intérieurement, la fidélité, c'est d'abord une histoire intérieure. Et donc, je peux très bien, sans commettre l'irréparable, mais quelque part manquer à la fidélité à mes engagements, à mon époux, etc., à ma famille, à ma communauté, à ce que vous voulez, à moi-même aussi, et à Dieu, parce que je ne rentre plus dans une logique de don. J'ai dit, c'est fini, on ne m'aura plus. Et bien souvent, ces attitudes-là viennent du fait qu'on a été blessé. C'est qu'on a été fidèle et que quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, a abusé de notre fidélité ou de notre confiance. Et du coup, quand ça arrive, ça c'est très grave, parce que quand ça arrive, il y a une forme de raidissement. On ne mourra plus là-dessus. Donc pensons aussi fidélité, pensons dynamisme. Pensons quelque chose qui avance. Qu'est-ce que je pourrais donner que je n'ai pas encore donné ? Ça ne veut pas dire multiplier les engagements, c'est dans les engagements que j'ai, ou dans ma vie spirituelle, qu'est-ce que je peux déjà donner, est-ce que vraiment je rentre dans une logique de don, ou alors est-ce que je suis dans une logique de consommation, d'attentisme. Alors parfois il y a des moments où on est moins en forme, voilà, on est un peu dépré, et puis bon, on est moins dans la logique de don. Bon, ça peut arriver, mais en tout cas, faut pas que ce soit. Mais en tout cas, faut pas que ça vienne d'une décision du cœur, d'un raidissement du cœur. Parce que là, vous seriez déjà infidèle. Et de fait, par exemple, pour parler de la vie matrimoniale, les adultères arrivent quand les époux ne sont plus dans une logique de don. C'est des vies parallèles. C'est deux vies parallèles. Ah, ils font tout comme tout le monde, etc., mais ils n'ont juste rien en commun. C'est un peu ballot, parce que si on se marie, c'est pour, grosso modo, avoir les choses en commun avec l'autre. Mais parce qu'ils ne sont plus dans la logique de don. Et donc, parfois, l'irréparable arrive, mais ça vient souvent de là. Donc c'est intéressant de revisiter pendant cette journée, prenez du temps pour ça, pour revisiter vos fidélités à Dieu, à vous-même, aux autres, etc. Est-ce qu'il y a des choses où je me sens que j'ai bloqué, je me suis endurci, j'y reste, mais je ne suis plus dans une logique de dynamisme du don. Et du coup, dans ce cas-là, de demander au Seigneur sa grâce pour retrouver une fraîcheur dans la manière de vivre vos fidélités quotidiennes.